C'est avec un plaisir particulier que nous accueillons donc aujourd'hui Lucie Genet dans le cadre des séminaires de l'ERIBIA. Alors, particulier pourquoi ? Tout simplement parce que Lucie a enseigné ici à Caen en LEA pendant 2 ans, de 2014 à 2016. Et ce, donc, avant de rejoindre l'université de Limoges. Lucie ne nous est donc pas inconnue et je dirais qu'elle connaît assez bien la maison. Quelques mots de présentation. Donc, Lucie Genet est maîtresse de conférence en civilisation des États-Unis au XXe et XXIe siècle, spécialiste des impacts de l'industrie nucléaire militaire et civile dans l'ouest des États-Unis, donc à l'université de Limoges, depuis 2016. Donc. À noter que Lucie a également soutenu son habilitation à diriger des recherches en 2023, comme on peut le lire à l'écran, MCF, donc maître de conférence, maîtresse de conférence, HDR, habilitation à diriger des recherches. Donc, elle a soutenu son HDR via le dossier qui avait pour titre « Vivre à la frontière avec le nucléaire dans l'ouest des États-Unis, impact, héritage et enjeux d'une cohabitation complexe dans un environnement fragile ». Ce qui signifie aussi que Lucie a abondamment publié, notamment sur l'histoire sociale et environnementale, la mémoire et la mémorialisation de la production d'armes nucléaires. Et parmi ces publications, outre un certain nombre d'articles et de chapitres d'ouvrages, figurent deux monographies. La première, issue de sa thèse de doctorat, intitulée « Land and Nuclear Enchantment, a New Mexican History of the Nuclear Weapons Industry », publiée en 2019 aux presses universitaires du Nouveau-Mexique. Et la seconde monographie, issue cette fois de son HDR, son habilitation à diriger des recherches, évoquée à l'instant, intitulée « Under the Cap of Invisibility, the Pantex Nuclear Weapons Plant and the Texas Panhandle », publié en 2022 également aux presses universitaires du Nouveau-Mexique. Par ailleurs, on lui doit aussi d'avoir co-dirigé avec Diane Bracco la publication d'un ouvrage collectif intitulé « Contre-cartographier le monde », publié en 2021 aux presses universitaires de Limoges. Enfin, depuis 2 ans à peu près, Lucie est engagée dans un nouveau projet de monographie qui a pour titre « The Green Atom, a History of Rebranding Nuclear Science in Idaho », dont la publication aux presses universitaires du Nouveau-Mexique est prévue pour 2027. Voilà, j'en viens maintenant à la communication d'aujourd'hui qui s'intitule « Les freins et contrepoids du nucléaire en Idaho, berceau de l'électricité atomique états-unienne ». Donc cette communication est dérivée du projet de monographie évoqué à l'instant et porte notamment sur les différentes formes qu'a pu prendre jusqu'ici la mobilisation antinucléaire dans l'État de l'Idaho depuis une quarantaine d'années. Je n'en dis pas plus et sans plus attendre, je te cède la parole, Lucie.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là. C'est un peu un pèlerinage pour moi, comme disait Olivier. Merci à Armel, merci Olivier pour votre invitation. Je l'ai dit déjà en privé, je le redis en public. Je suis vraiment très contente d'avoir cette possibilité. Je vais présenter en français. Les citations seront en anglais. Si jamais il y a des difficultés de compréhension, vous me dites et je traduis sans problème. Donc, comme l'a dit Olivier, depuis une quinzaine d'années, je travaille sur un espace qu'on appelle l'Ouest nucléaire. D'accord, l'Ouest nucléaire. Donc, à quoi ça correspond ? Vous avez une carte ici qu'on a créée avec un collègue Fabien Cerbelot à l'Université de Limoges pour représenter de quoi il s'agit. Donc, c'est une région de l'Ouest des États-Unis impactée d'une manière ou d'une autre par les activités atomiques du pays, que ce soit l'extraction d'uranium, par exemple, les centres de recherche, de développement, de production, d'essais d'armes nucléaires, ou encore la gestion de déchets radioactifs. En France, il y a Bure. Aux États-Unis, il y a Yucca Mountain. Les impacts de toute cette industrie sont évidemment variés, économiques, sociaux, culturels, politiques, environnementaux, sanitaires, etc. La liste est très longue. Alors, d'où vient ce terme, l'Ouest nucléaire ? Alors, Ouest nucléaire ou Ouest atomique à la base, on doit cette expression à l'historienne Patricia Nelson Limerick, dont vous avez l'ouvrage le plus connu ici. Elle est l'autrice de The Legacy of Conquest. Donc elle avait écrit un essai sur l'indécis du projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est l'organisation qui a donné naissance à la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait un site de production de plutonium à Hanford, dans l'État de Washington. C'est le carré vert là-haut, dans l'État de Washington, près de la frontière avec le Canada. C'est aujourd'hui l'un des endroits les plus pollués au monde. Et donc, quand l'Amérique a écrit sur Hanford, elle a parlé de l'Ouest nucléaire pour faire référence à tous ces sites que vous voyez ici qui sont en lien avec la production d'armes nucléaires dans l'Ouest. Alors, l'Amérique, c'est une figure de proue dans un mouvement historiographique important qui s'est développé à partir de la fin des années 70 et qu'on appelle la nouvelle histoire de l'Ouest. Je fais un tout petit détour par l'histoire de l'Ouest pour que vous compreniez un petit peu dans quelle historiographie générale mon travail s'inscrit. Alors traditionnellement, je ne sais pas si vous avez étudié ça en CVUS, mais l'histoire de l'Ouest s'en tenait à la conquête de l'Ouest, le Far West avec tous ses stéréotypes, au processus d'intégration des nouveaux territoires dans l'Union états-unienne, selon la théorie de la frontière de Frederick Jackson Turner, très connu, c'est le père fondateur de l'histoire de l'Ouest. Et donc Limerick et d'autres historiens et historiennes de sa génération vont envisager l'Ouest non plus comme un processus, comme c'est représenté sur ces cartes ici, mais comme une région à part entière, avec un passé complexe. Excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte. Donc une région avec un passé complexe qui s'est nourri des relations entre des populations très diverses, alors que Turner, ce produit de son époque, se focalisait sur les frontiersmen, donc les hommes blancs et les mythes des légendes de la conquête de l'Ouest. Cette nouvelle histoire de l'Ouest s'est focalisée beaucoup plus sur les minorités, sur les femmes, sur les cowboys noirs, par exemple, les Africains-Américains, etc., etc. Et plutôt que de montrer tous les succès de la conquête de l'Ouest, c'est aussi intéressé aux aspects les plus difficiles de cette migration. Cette génération s'est aussi intéressée à l'évolution de l'Ouest depuis la fin du XIXe siècle. Traditionnellement, on parle de l'histoire de l'Ouest. Une fois que la frontière était fermée, on s'y intéressait plus. Voilà, donc le XXe, XXIe siècle n'intéressait pas trop les historiens de l'Ouest à la base. Avec cette nouvelle génération, on a eu des nouveaux travaux. Et ces travaux ont révélé des relations entre l'Est et l'Ouest des États-Unis qui se sont forgées dans le cadre d'un colonialisme interne. C'est-à-dire que l'Ouest, c'était en fait les colonies, les premières colonies états-uniennes, même si elles portaient le nom de territoire. Selon la thèse de Nash, donc Gerald Nash, qui faisait partie de cette génération aussi, selon sa thèse, la Seconde Guerre mondiale aurait libéré l'Ouest de cette dynamique de dépendance envers l'Est et envers d'autres marchés extérieurs dont elle souffrait auparavant. Alors, la thèse de Nash est assez convaincante pour des États comme la Californie, par exemple, l'Oregon, l'État de Washington, qui sont sur la côte. Mais par contre, pour les États du continent, c'est un petit peu moins convaincant. Il y a beaucoup plus de continuité en termes de dépendance sur les marchés extérieurs. Et Limerick parle de cela dans l'héritage de la conquête, cette continuité dans les relations entre l'Ouest et le reste du pays. Et je fais partie un petit peu de cette école de pensée. Mes collègues chercheurs et chercheuses dans le domaine du nucléaire et moi-même ont essayé de démontrer que le nucléaire faisait partie de cette dynamique. Donc voilà, je vous parle de ça parce que les activités nucléaires aux États-Unis s'inscrivent vraiment dans un contexte historique sur le temps long et des relations centre-périphérie très complexes. Donc comme l'a dit Olivier dans sa présentation, j'ai eu trois grands projets. Donc le premier, c'est dit dans ce premier projet, les dynamiques entre centre-périphérie étaient bien illustrées quand j'ai travaillé sur le Nouveau-Mexique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Si jamais vous avez vu le film Oppenheimer, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, il ne vous aura pas échappé que la bombe atomique est née dans un état du sud-ouest des États-Unis, c'est-à-dire le Nouveau-Mexique, qui ne fait pas partie du Mexique, qui fait bien partie des États-Unis, même si certains États-Unis l'ignorent. Donc, suite au projet Manhattan, qui a apporté cette nouvelle industrie, il y a vraiment toute une industrie nucléaire qu'on appelle du berceau à la tombe, qui s'est développée, donc, c'est-à-dire de la recherche et l'extraction d'uranium jusqu'à l'enfouissement de déchets. Des fois, on dit que si le Nouveau-Mexique se séparait des États-Unis, ce serait l'une des plus grandes puissances nucléaires mondiales. Parce qu'il y a aussi deux laboratoires nationaux, il y a du stockage d'armes, il y a vraiment tous les aspects du nucléaire qui sont représentés. Donc ça, c'était ma thèse de doctorat. Je me suis intéressée à la façon dont les néo-mexicains ont vécu le déploiement de cette industrie. Ensuite, j'ai voyagé sur la route 66, très connue, qui va de Albuquerque à Amarillo. Donc je suis passée au Texas, dans la Panhandle of Texas, qui est cette partie, le carré qu'on voit là-haut. Donc c'est une ville très connue, hein, Amarillo, très connue surtout des documentaires sur l'Ouest authentique. Si vous regardez les documentaires Arte sur l'Ouest, souvent il y a un arrêt à Amarillo. Mais c'est aussi, et c'est moins connu, là où toutes les armes nucléaires états-uniennes ont transité à un moment ou à un autre, parce que l'usine de Pentex, Panhandle of Texas, est l'unique centre d'assemblage et de démantèlement des armes nucléaires aux États-Unis. Dans les années 80 et 90, Pentex s'est retrouvé sous le feu des projecteurs médiatiques parce que l'usine a attiré le mouvement antinucléaire. Donc des militants ont convergé dans les années 80 parce qu'à Pentex, qui était un symbole de la politique réaganienne à l'époque de la guerre froide et de la course à l'armement qui battait des records à l'époque. Ensuite, ce sont les agriculteurs locaux qui se sont mobilisés contre l'expansion du site dans une région qu'on appelle le Grenier de l'Amérique. Ça semble un peu incongru de mettre des armes nucléaires à côté des champs de blé, mais en fait, Pentex s'est complètement invisibilisé en se fondant dans le folklore local. Et donc, je me suis intéressée à l'invisibilité de cette usine dans le contexte du Texas. Voilà. La raison pour laquelle je fais ce petit détour, c'est pas pour frimer, mais c'est pour dire que j'ai retrouvé certaines de ces caractéristiques dans mon projet actuel en Idaho. Donc ça permet d'avoir une vue un peu plus globale, de poser certaines bases pour comprendre la façon dont les différents sites de l'Ouest nucléaire sont reliés entre eux. Et ça concerne aussi, bien sûr, le système fédéral états-unien, qui est important, parce que quand on pense nucléaire, on pense au nucléaire français, mais le contexte des États-Unis est très différent à cause de la taille du pays et de ce système fédéral, là où il y a une concurrence entre les États et une concurrence entre les gouvernements des États et le gouvernement fédéral à Washington. On retrouve vraiment ces mêmes dynamiques au Nouveau-Mexique, au Texas et dans l'Idaho, dont je vais parler dans un instant. Et du côté antinucléaire, c'est aussi intéressant de voir la façon dont les réseaux militants communiquaient entre eux, malgré les distances, d'un site à l'autre, d'un coin de l'Ouest nucléaire à l'autre, échanger des techniques de mobilisation, échanger leurs newsletters, leurs communications. On retrouve parfois les mêmes documents dans les archives, alors qu'on est au nord de l'Idaho et dans la Panhandle du Texas. Donc c'est très intéressant de faire ces liens. Alors j'en arrive à mon site d'aujourd'hui. Donc déjà quelques mots sur INL, Idaho National Laboratory. Donc le 8 décembre 1953, à l'ONU, le président des États-Unis, Dwight Eisenhower, promettait, je cite, d'avancer vers la paix et le bonheur grâce à un programme qui est devenu célèbre depuis. Je ne sais, vous en avez peut-être pas entendu parler, mais c'est très célèbre aux États-Unis. Donc, ce programme pour l'utilisation pacifique des technologies nucléaires, qui s'appelait Atoms for Peace, les atomes pour la paix. Et aux États-Unis, il y a un endroit qui allait incarner cet effort, un site qui s'appelait à l'époque la National Reactor Testing Station, donc une station de test des réacteurs, fondée en 1949 dans le désert du sud-est de l'Idaho. Là, vous le situez, c'est dans le nord-ouest du pays. Voilà, c'est ce triangle entre donc Washington, Oregon vers l'ouest, et le Montana et le Wyoming à l'est. Et c'est là, peu de gens le savent, on croit des fois parce que le mix énergétique français repose énormément sur le nucléaire, on pense que la France a inventé l'électricité nucléaire, et ben non, c'est là et là-haut. Voilà, l'électricité nucléaire est née en Idaho. En 1951, le réacteur EBR-1, donc c'est Experimental Reactor, Breeder Reactor No. 1, produisait suffisamment d'électricité, d'énergie, pour allumer 4 ampoules électriques. On peut encore voir ces ampoules dans le musée, et c'est devenu un musée aujourd'hui. 4 années plus tard, c'est la ville de Arco, qui est juste à côté, qui devenait la première ville au monde, c'est une petite bourgade, alimentée en électricité par l'atome. Elle en est très fière, comme vous voyez, sur les poubelles, sur le panneau d'entrée dans la ville. Il y a des atomes de partout. Au total, plus d'une cinquantaine de prototypes de réacteurs ont été développés dans l'Idaho. Donc, c'est la concentration de réacteurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Mais à une époque, dans les années 60, c'était la plus grande concentration de réacteurs au monde. Le site a changé plusieurs fois de nom, comme vous le voyez ici, jusqu'à devenir aujourd'hui le laboratoire national de l'Idaho. Alors, ce site était donc le pur produit de la frénésie atomique des années 50, quand on pensait qu'on allait tout faire avec l'atome, que vos voitures aujourd'hui seraient propulsées avec un mini-réacteur à l'intérieur. Alors, indirectement, les voitures électriques sont nourries en énergie nucléaire, donc on y est presque. Mais dans les années 50, c'était vraiment une frénésie totale. Donc c'était présenté comme l'endroit où les miracles de l'énergie atomique deviendraient réalité. Plusieurs motifs iconographiques et linguistiques peuvent être associés à cet enthousiasme. Par exemple, le génie de la série Disneyland qui explique... l'électricité atomique aux enfants, c'est sur YouTube, vous pouvez le regarder, c'est très intéressant. Ou l'expression « too cheap to meter », trop bon marché pour être mesuré, de Levi Strauss, en 54, qui était à la tête de l'AEC. AEC, c'est Atomic Energy Commission, donc la commission de l'énergie atomique. Alors, les articles de presse montrent bien que les Idahoans, les résidents de l'Idaho, étaient très fiers du rôle joué par leur État, pour apporter au monde l'énergie miraculeuse de l'atome. Ils étaient réceptifs à cette division entre l'atome ami, on va dire, la classification atome pour la paix, atome pour la guerre. D'accord, les atomes amis et ennemis. Qu'ils utilisaient encore des décennies plus tard. Là, vous avez une citation de 1996 d'un travailleur de Boise. Boise, c'est la capitale. « Nuclear power generation is the friendly use of science and physics. Nuclear electricity is the process of converting the energy released from splitting the atoms in a contained setting, which is friendly. Nuclear bombs are uncontrolled release of this energy for destruction of this or the threat of the same, which is unfriendly. » Donc on voit vraiment dans le vocabulaire que c'était vraiment rentré l'imaginaire local de faire cette séparation. Alors moi, ce qui m'intéresse dans mon projet actuel, outre l'antinucléarisme auquel je vais arriver dans un instant, le manuscrit sur lequel je travaille porte sur la manière dont cette rhétorique « friendly, unfriendly », la rhétorique de l'atome pour la paix, et l'atome notre ami des années 50, a été recyclé très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, en un discours environnemental, pro-nucléaire, dès la fin des années 60, dans l'Idaho. Donc c'est ce que j'ai appelé l'atome vert. Alors, ne me le volez pas, ce n'est pas encore breveté, il y a un article qui va être publié, mais ce n'est pas encore utilisé dans le domaine, donc j'espère pouvoir mettre mon tampon dessus. Alors l'atome vert, c'est-à-dire la promotion de la science nucléaire comme une solution technologique clé pour répondre à des problèmes environnementaux variés, principalement le réchauffement climatique, mais aussi la création de partenariats entre les sites nucléaires et la nature avec un grand N. Je pourrais revenir là-dessus pendant les questions parce que j'ai pas eu le temps, il n'y aura pas le temps pour en dire plus dans la présentation. Alors, aujourd'hui, les écologistes pronucléaires considèrent que cette option, donc le nucléaire, doit être réexaminé à la lumière du changement climatique. Pour certains, par exemple, les fondateurs de la Breakthrough Institute aux États-Unis, c'est la prise de conscience du réchauffement qui a signé ce qu'ils appellent, je cite, la mort de l'environnementalisme traditionnel, dans sa forme traditionnelle. À la base, les écolos, aux États-Unis principalement, étaient anti-nucléaires. D'accord ? Donc c'est le mouvement écomoderniste aussi. Vous avez un très bon livre, Ecomodernism, qui vous explique le principe, est un autre exemple. D'ailleurs, Nordhaus et Schellenberger ont participé à la fondation du mouvement écomoderniste avec ce manifeste. C'est l'une des nombreuses approches qu'on appelle cornucopienne ou technosolutionniste de la crise climatique qui s'appuie sur une énergie nucléaire abondante pour garantir ce qu'ils appellent, je cite, un formidable anthropocène. Alors, c'est grâce à une pléthore de livres, de films documentaires que la popularité de l'atome vert n'a cessé de croître et de se généraliser. Là, vous avez trois exemples de films documentaires là-dessus. Est-ce que ces trois films ont en commun, que beaucoup de gens ne remarquent pas, mais ce sont des scènes tournées dans l'Idaho. Voilà, là, ces trois équipes de films sont allées sur le site d'ANL. Alors, bien entendu, je ne suis pas la seule, là, je fais... je ne suis pas la seule chercheuse à étudier ce processus discursif. Lucie de Carvalho parle de la climatisation des questions liées à l'énergie nucléaire au Royaume-Uni. Elle parle aussi de l'énergie nucléaire qui devient verte. Ange Potin, en France, fait remonter la tradition du nucléaire écologique au projet français de cycle de combustible fermé dans les années 70. Paul Josephson, aux États-Unis, a récemment posé la question « How green is the atom ?» qui rappelle en fait un article de 67, ça c'est une autre citation, excusez-moi. Il y a un article que je voulais vous mettre et que j'ai enlevé, donc je passe. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, ce processus de verdissement ou d'écologisation du nucléaire, enfin du discours sur le nucléaire, ne date pas d'hier. Vanter les mérites de l'énergie nucléaire propre, alors, propre dans la mesure où les centrales ne rejettent pas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est un argument très ancien. Et en 67, les promoteurs du site dans l'Idaho l'ont utilisé dans un rapport destiné à l'État de l'Idaho, sur la manière de planifier l'avenir atomique de l'Idaho. Alors les auteurs affirmaient Not only are nuclear plants economically competitive, they are safe, clean, quiet, and produce no smog-forming byproducts. Undoubtedly, our grandchildren, so you guys, will live in an age where coal-fired power plants will be the exception rather than the rule. It will be the magic ingredient in maintaining and improving our standard of living in the 21st century. Alors, la propreté, l'abondance, magique même, la fiabilité sont des échos discursifs du passé qu'on retrouve sur le site de l'ANL aujourd'hui. Safe, clean and always on. Donc, au-delà de ces racines, s'il fallait retenir une date pour la naissance officielle de l'atome vert, ça pourrait être 97, un peu plus tard quand même, parce que c'est l'année où le site a changé de nom. Est devenu Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. C'est aussi l'année de Kyoto, la COP de Kyoto. C'est la fin de la guerre froide. Donc, les sites nucléaires devaient se trouver une autre mission, parce que la mission des armes nucléaires était en baisse. Les nouveaux réacteurs, le développement de nouveaux réacteurs dans l'Idaho s'essouffle. Le Congrès a supprimé le financement du réacteur à neutrons rapides, qui s'appelle Integral Fast Reactor, en 1994, malgré un essai réussi. Mais l'essai avait eu lieu en avril 1986, deux semaines avant Tchernobyl. Donc après ça, le nucléaire n'avait plus le vent en poupe. Et pour l'Idaho, il fallait trouver une nouvelle mission. Et logiquement, l'installation s'est rebaptisée Environmental parce qu'elle a choisi l'environnement comme sa mission principale. On voit que tous les logos faisaient référence à ce verdissement. Voilà. Alors j'en arrive enfin au sujet du jour. Frein et contrepoids. D'accord. Bon, parfait, je suis dans les temps. J'ai zappé un ou deux trucs, mais on pourra y revenir si vous voulez. Donc cette recherche sur l'atome vert est issu d'un terrain que j'ai fait au printemps 2023, où j'étais pendant plusieurs mois en Idaho. J'ai épluché les collections disponibles dans les bibliothèques locales et universitaires, les archives d'État. En parallèle, j'ai aussi rencontré des gens, rencontré des militants, rencontré des élus locaux, des pro-nucléaires, des anti-nucléaires, voilà, un panel assez large. C'est une question assez clivante, hein. En général, voilà. En Idaho, c'est soit on est vraiment à fond pour, soit on est vraiment à fond contre, et certains qui n'ont pas du tout d'avis, qui ne savent même pas que INR est dans leur état. Ça arrive aussi. Et c'est toute cette matière que j'ai regroupée qui m'a permis d'identifier les mécanismes de pouvoir et contre-pouvoir assez puissants, donc frein et contrepoids. Ce titre, je l'ai choisi en rapport avec le système de checks and balances dans le système institutionnel aux États-Unis. Donc voilà, ces dynamiques, ces mécanismes de pouvoir et contre-pouvoir à l'œuvre dans l'histoire du laboratoire depuis la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, et ce qui nous amène à l'opposition entre écologistes pro et anti-nucléaire, donc pro-nucléaire et pro-renouvelable aujourd'hui en Idaho. Alors, effectivement, comme les détracteurs, les critiques du site n'ont pas manqué de le souligner dans les années 90, une grande partie de la mission environnementale et des travaux environnementaux entrepris dans le cadre de ce changement de nom, avec tous ces logos verts, etc., consistait à développer des techniques de gestion des déchets radioactifs produits par notamment la marine nucléaire, produits par le laboratoire, sa recherche sur les réacteurs, mais aussi pour développer des techniques de restauration de l'environnement, enfin de décontamination, donc pour nettoyer la pollution que le site avait lui-même engendrée. Donc évidemment, les militants locaux ont été rapides pour montrer cette ironie. Donc, d'ailleurs, le site avait été inscrit sur la liste prioritaire des Superfunds, donc c'est une liste des sites les plus pollués aux États-Unis qui est déterminée par l'Agence de protection environnementale, l'EPA, en 1989, à cause de substances toxiques qui étaient arrivées dans la nappe phréatique. Alors, certains, évidemment, ont interprété cette nouvelle orientation du site comme une tentative de greenwashing. Alors, je vous propose de vous concentrer sur trois contre-pouvoirs majeurs. Tout d'abord, une association militante, l'association militante principale qui s'appelle la Snake River Alliance. Ensuite, le gouvernement de l'Idaho, qui est un contre-pouvoir très important dans cette histoire. Et enfin, mais très important, de finir avec eux, parce que je vais plus développer cet aspect, la communauté amérindienne des Shoshone-Bannock, qui a une réserve pas très loin, à une soixantaine de kilomètres du site. Alors, donc là, premier point, contre-pouvoir numéro 1, The Snake River Alliance. Alors, cette association a été fondée à Boise, donc Boise, la capitale de l'État, l'année de l'accident de Three Mile Island en 1979. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous connaissez peut-être Tchernobyl quand même, Fukushima. Mais avant Tchernobyl, pour les États-Unis, l'accident voilà, qui vont mentionner en premier, ce sera sûrement Three Mile Island en Pennsylvanie en 1979, qui a fait peur à énormément de gens. C'est vraiment l'un des événements fondateurs du mouvement anti-nucléaire aux États-Unis, puisque c'est là que beaucoup ont pris conscience de l'impact potentiel d'une explosion, d'un accident majeur, du principe de la radioactivité, etc. Il y a une série sur Netflix aussi, sur Three Mile Island, qui est très orientée. Donc si vous la regardez, prenez ça avec un petit peu de... with a grain of salt, je ne sais plus comment dire en français. Avec un peu de recul. Ce n'est pas le pire accident dans l'histoire des États-Unis. Je pourrais vous en parler aussi. Il y a la même année, sur un bassin de déchets radioactifs liquides. Il y a une digue qui a cédé au Nouveau-Mexique. Church Rock, c'est l'accident de Church Rock, qui a libéré 3 fois plus de radioactivité que Three Mile Island. Mais personne n'en a entendu parler parce que c'était au Nouveau-Mexique et que c'est un État pauvre. Qui est beaucoup plus éloigné des centres de décision et de pouvoir. Et surtout, les populations affectées étaient principalement Navajo et Laguna Pueblo, donc des Amérindiens qui ont beaucoup moins de puissance politique. C'est aussi pour ça qu'on en a moins entendu parler. Et j'ai fait une digression et maintenant j'ai... Ok. Alors, 1979... Cette association est créée. Ça faisait déjà 10 ans que certains Idahoans s'inquiétaient des conséquences de la gestion des déchets, de la manière dont le site se débarrassait de ses liquides radioactifs et enfouissait ses déchets. Un premier lanceur d'alerte, c'est un petit anachronisme parce qu'on n'utilisait pas encore le terme à l'époque, mais aujourd'hui on le considérerait lanceur d'alerte, c'est Bob Erkins. Un producteur de truites, en anglais on dit trout farmer, qui apprend en 1969 par hasard, par un ami new-yorkais en fait, que des liquides radioactifs sont injectés directement dans l'aquifère. Donc l'aquifère, c'est, ou l'aquifère en français je suppose, c'est la nappe phréatique en fait. C'est un énorme réservoir d'eau sous la terre. Précision importante, vous le savez peut-être, mais pour un réacteur nucléaire, il faut une source d'eau à proximité. C'est pour ça qu'en général, les centrales sont proches des rivières, parce qu'il faut un système de refroidissement. Sinon, vous avez un problème. Donc vous allez me dire, le sud de l'Idaho, je disais tout à l'heure, c'est un désert. Mais ça, il ne manque pas d'eau, justement parce qu'il y a cette réserve... miraculeuse quasiment, c'est l'un des plus grands aquifères du monde, l'une des plus grandes réserves d'eau douce. C'est une eau qui sert à irriguer les champs, à approvisionner le réseau d'eau potable pour tous les habitants de la vallée, donc ça fournit plus de 300 000 personnes en eau potable. Et le réservoir rejoint également le réseau fluvial. Donc vous voyez le mouvement, hein, le courant. Et à Hagerman, donc c'est tout au bout, là on voit les petits points rouges ici. Là, ça remonte à la surface. Et c'est là qu'était la ferme de truites, enfin l'élevage de truites de Bob Erkins, qui a commencé à s'inquiéter un petit peu. Des contaminants potentiels radioactifs qui pouvaient se retrouver dans son eau. Effet boule de neige, d'autres voix s'élèvent, s'inquiètent de la qualité de leur eau et se mobilisent pour former ce garde-fou qui est devenu assez puissant, la Snake River Alliance, qui prend le nom de la source de vie dans la vallée, cette rivière qui s'appelle la Snake River, qui passe dans la plaine, c'est the Snake River Plain, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom-là. L'association, au bout de 10 ans, comptait plus de 1 000 membres, ce qui n'est pas négligeable. Idaho avait une population de 1 million d'habitants. Bon, ce n'est pas énorme, mais en termes de militantisme aux États-Unis, c'est déjà pas mal. Comme la plupart des groupes antinucléaires de l'époque, par contre, même si la motivation, c'était de protéger l'eau, à l'époque, la focalisation, c'était les armes nucléaires. C'est encore la guerre froide, on est dans les années 80. Donc l'Alliance est d'abord mobilisée sur les questions d'armes nucléaires, sur des projets en lien avec les armes nucléaires proposés pour le site de l'Idaho dans les années 80 par l'administration Reagan. Et pour l'Alliance, il existait, je cite, un lien direct et manifestement inévitable entre la production d'armes nucléaires et la dégradation de l'environnement. Donc l'environnement, c'était un petit peu un second point, mais totalement lié aux yeux des militants. Petit détour historique ici, même si la station de l'Idaho était présentée comme dédiée aux atomes pour la paix, dès le départ, chaque branche de l'armée était représentée d'une façon ou d'une autre. Par exemple, la marine a développé le réacteur qui a propulsé le Nautilus, l'USS Nautilus. C'est pas celui de Jules Verne, c'est le premier sous-marin nucléaire. Donc qui a été qui a fait son baptême en 55. L'armée de l'air avait un projet fou, l'espoir d'un avion à propulsion nucléaire, donc de mettre un réacteur sur un avion. C'est un programme qui a été supprimé par l'administration Kennedy en 61 parce que, avec le développement des missiles balistiques intercontinentaux, il n'y avait plus besoin d'un avion nucléaire. Donc le projet a été abandonné, mais l'armée est encore présente aujourd'hui. L'armée de l'air est encore présente aujourd'hui. L'armée de terre aussi irradiait des denrées alimentaires pour les garder plus longtemps, pour les troupes. Et travailler sur des petits réacteurs mobiles, small modular reactor, ce qui a donné des SMRs qui sont très à la mode aujourd'hui, et ben ça date pas d'aujourd'hui, ça date de l'Idaho dans les années 50. Et donc le principe de ces petits réacteurs, c'était d'alimenter des bases militaires éloignées, par exemple dans l'Arctique, il y avait une ligne d'avertissement au cas où un missile était envoyé depuis l'Union soviétique. Et il fallait bien apporter de l'électricité sur cette ligne de présence militaire états-unienne. Donc ils ont développé un petit réacteur qui s'appelait le SL-1 et qui, malheureusement, encore une fois, personne n'en a entendu parler, mais ce réacteur a explosé et a tué les trois techniciens qui étaient en poste. Donc c'est le seul accident nucléaire aux États-Unis qui a fait des victimes, du moins des victimes directes. Donc il a explosé en 61. Et comme vous voyez sur donc il y a deux livres qui retracent cette histoire. Et tristement, Richard Legg s'est fait empaler par l'une des barres de contrôle. Donc c'était un accident quand même assez remarquable. Bref, dès le départ, le site de l'Idaho était dédié aux atomes pour la paix, donc principalement développement d'applications pacifiques, mais les intérêts militaires y ont été représentés pendant toute son histoire. Et pour les militants, c'était bien là le problème. C'était là que se jouait pour eux la mobilisation au départ. Donc le gouvernement et l'industrie déployaient d'énormes efforts de communication pour essayer de faire un divorce, de complètement séparer atome pour la paix et atome pour la guerre. Ça fonctionnait plutôt bien. Mais les militants, au contraire, voulaient démontrer la solidité du mariage entre les deux, qu'il n'y avait jamais eu de divorce, que les deux étaient reliés. Et dans les années 80, il y a eu plusieurs propositions. Tout d'abord le SIS, qui était Special Isotope Separation Plant, en 86, une usine de retraitement du plutonium par rayonnement laser. Donc voilà, Star Wars, c'était très à la mode à l'époque de Reagan, qui avait aussi un projet de laser qui exploserait les missiles dans l'espace. Enfin bon. Donc le plutonium qui était stocké à Hanford, le carré vert dont je vous ai parlé tout au début, qui polluait les sols et les rivières à ce moment-là. L'idée, c'était de récupérer ce plutonium en surplus, de le retraiter par les lasers pour fabriquer des noyaux pour les ogives nucléaires dans le Colorado. Voilà. Donc l'Idaho serait une étape entre l'État de Washington et le Colorado pour fabriquer des noyaux pour les ogives nucléaires. Un autre projet, New Production Reactor, devait servir à produire du tritium. Le tritium, c'est un gaz qui sert de déclencheur dans les armes nucléaires. Donc d'ailleurs, il doit régulièrement être remplacé dans les missiles. Et là, si on regarde rapidement cette citation, je vous lis juste la partie en vert. « We must not let the INEL be turned into the weapons west. » Donc il y avait cette crainte, là c'est la directrice Elizabeth Paul, la directrice de SRA, pardon. Il y avait cette crainte que l'Ouest nucléaire devienne l'Ouest des armes, qu'il y ait une dépendance, et ça a été le cas dans certains endroits, à l'industrie des armes nucléaires. Alors, à part les plus radicaux, les membres de l'Alliance ne voulaient pas la fermeture du site. Ils voulaient pas, parce que bon, il y a un impact économique énorme pour les populations locales. Ce qu'ils voulaient, c'était que le site garde ses priorités, les applications pacifiques de la science nucléaire, énergie, médecine, agriculture et qu'il n'y ait pas de lien avec la guerre. Alors, il est intéressant de noter qu'une partie de l'iconographie militante a détourné l'imaginaire des années 50 des atomes pour la paix. Par exemple, ici, on a le génie atomique qu'on avait tout à l'heure pour les années 50. Là, vous le voyez, il a la tête en forme de cheminée de refroidissement et ça représente un petit peu un pacte avec le diable, un petit peu, cette idée-là, un pacte faustien. Alors, les méthodes de pression de l'Alliance est classique, hein, pétition, organisation de manifestations, écrire aux journaux locaux, publier des newsletters, des prospectus, invitation d'artistes, là vous voyez un flyer pour Plutonium Blues, pour un concert. Invitation d'experts scientifiques aussi pour témoigner. Exiger des réunions publiques à chaque fois sur les projets. Et bien sûr, arriver à un très grand nombre pour étouffer les voix pro-nucléaires dans ces réunions. Inonder les élus locaux de lettres et de coups de fil. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, moins en France, je trouve. Mais les États-Unis sont très proches de leurs élus locaux. Ils vont les voir, ils les appellent, ils leur envoient des lettres. Et on retrouve toutes ces lettres dans les archives. Aussi dans les processus d'impact, études d'impact environnementaux, le public pouvait soumettre des commentaires. Et ben l'Alliance envoyait des milliers de commentaires, un peu comme un parti d'opposition à l'Assemblée nationale contre une loi qui propose des milliers et des milliers d'amendements. C'est un peu le même principe. Il y avait une énorme coalition avec d'autres associations de pays, etc. Alors, une pratique très répandue que j'ai retrouvée aussi à Pentex, c'était l'observation des trains et camions qui transportaient des matières radioactives ou des armes. Les militants qui se chargeaient de l'observation étaient surnommés les train spotters, qui vous fera peut-être pas penser au film Trainspotting. Dans d'autres cas, justement à Pentex ou dans le Nevada aussi, là où ont eu lieu la plupart des essais nucléaires. Des militants ont même été arrêtés parce qu'ils s'asseyaient sur les rails pour organiser ce qu'on appelle de la désobéissance civile. À Pentex, il y a même un militant qui a carrément arraché une partie du rail et qui a été arrêté pour ça. Donc ça allait très loin. Les joutes verbales aussi, je voulais vous donner quelques exemples ici. Est-ce que j'ai le temps? Je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous le lire, donc on y reviendra si vous voulez. Mais on voit que les joutes verbales entre pro et anti-nucléaire sont un échantillon vraiment très représentatif des ressorts rhétoriques qu'on trouvait ailleurs aux États-Unis à cette époque, mais aussi en Europe, parce que le mouvement anti-nucléaire était aussi en Europe, évidemment. Sur les craintes ou les dangers du nucléaire, partout où les craintes ou les dangers du nucléaire s'exprimaient, ce qui revient constamment, c'est une opposition très binaire entre d'un côté la raison, les faits scientifiques, les experts, le discours d'experts, et de l'autre côté l'émotion, l'alarmisme, voire l'hystérie. Le mot hystérie était beaucoup utilisé, surtout quand les militants étaient des militantes. Parce qu'il faut savoir que l'hystérie, c'était à la base un diagnostic qui était utilisé beaucoup envers les femmes. Quand elles avaient le malheur d'être un peu énervées, on leur donnait un diagnostic d'hystérie. Et bon, je pourrais revenir là-dessus si vous voulez, mais quand les enfants ont commencé à développer des leucémies parce qu'elles étaient sous le vent par rapport aux essais radioactifs, atmosphériques, des mères allaient chez le médecin et disaient « Mais mon enfant est malade, qu'est-ce qui se passe ?» Et on les a diagnostiqués hystériques alors que les enfants développaient des leucémies radio-induites. Je ferme la parenthèse. Donc c'est une dichotomie vraiment très classique qui sous-tend encore aujourd'hui les débats sur le nucléaire et des débats sur le climat aussi, entre l'émotion hystérique des écolos d'un côté et les faits plus économiques et politiques de l'autre. Bon, après, il y a les faits scientifiques qui sont remis en question aussi. Donc je passe, on pourra revenir sur les citations si vous voulez. Quand le laboratoire a développé son discours autour de l'atome vert, l'Alliance a aussi adapté son discours et sa mission pour devenir défenseur de l'énergie propre en Idaho. Le site internet d'ailleurs se présente comme Clean Energy Champion et promeut principalement l'énergie solaire. Voilà. Donc très engagé dans, comme les atomes pour la paix étaient sur la base d'un mythe, d'accord, donc les militants des années 80-90 s'étaient mobilisés pour dénoncer les mythes de l'atome pacifique. Ces mêmes militants aujourd'hui dénoncent l'atome vert comme un mythe. Comme cette, voilà. Et d'ailleurs, si on cite Arjun Makhijani, qui était le président de l'Institut pour la recherche sur l'énergie et l'environnement, il déclarait en 2006 déjà: l'idée que l'énergie nucléaire va nous sauver du changement climatique mondial est aussi à la mode aujourd'hui que l'était il y a un demi-siècle les éloges à l'énergie nucléaire comme une source d'énergie magique. Voilà. Il parle de proclamation messianique de l'industrie. En tout cas, c'est la pression exercée par l'Alliance à la fin du siècle a été relativement efficace puisque les projets de l'ère Reagan ont été abandonnés. Il faut dire que c'était aussi la fin de la guerre froide, donc ils étaient moins intéressants. Et aussi a mis pression énormément sur les élus locaux, sur l'état de l'Idaho. Donc j'en arrive au deuxième point. Ouais, il va falloir que j'accélère. Alors, le cas des États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, est très intéressant à cause de son système fédéral. Donc la gouvernance du nucléaire est très différente par rapport à la France, où c'est centralisé. Et c'est un excellent point de départ pour comprendre les dynamiques de fédéralisme concurrentiel. On appelle ça le fédéralisme concurrentiel entre les États fédérés, entre eux, et entre l'État fédéral et les États fédérés. Notamment entre les États qui produisent des déchets radioactifs et ceux qui les stockent. C'est précisément sur cette question épineuse du stockage des déchets que l'Idaho s'est le plus rebellé sous la pression des électeurs, mais électrices, mais également sous le leadership, enfin, je vais garder mon français, anglais, parce que je ne me souviens plus comment dire en français, du gouverneur Cecil Andrews et du sénateur Frank Church. Alors, Frank Church, c'est les années 70, mais il était très sensible à la cause écologique. Mais je vais me concentrer aujourd'hui sur Andrews, qui a été gouverneur pendant deux périodes, 70 et 80-90. Alors, il faut savoir que le site avait accumulé depuis les années 50 des quantités énormes de déchets radioactifs, non seulement produits par le site lui-même, mais aussi importés d'ailleurs. Donc, du combustible irradié qui venait des réacteurs de recherche, des réacteurs étrangers, ça faisait partie du programme pour des atomes pour la paix, les sous-marins nucléaires, le cœur du réacteur de Three Mile Island, là où il y a eu l'accident en Pennsylvanie, était dans l'Idaho, a été récupéré dans l'Idaho. Mais les déchets qui posaient le plus de problèmes, ce sont ceux qui provenaient de Rocky Flats. Donc, je vous ai remis la carte, Rocky Flats au Colorado, donc l'autre carré vert, qui a fait scandale dans les années 80. Donc Rocky Flats produisait les noyaux de plutonium dans les ogives et envoyait ces déchets dans l'Idaho, souvent mal répertoriés, pas toujours très bien conditionnés. Une grande partie des problèmes environnementaux sur les sites de stockage locaux sont liés à ces barils qui étaient, comme vous le voyez, carrément déversés dans des tranchées non doublées, donc directement sur le sol. Des fois, ils s'explosaient. En plus, en 62 et 69, il y a eu une inondation à la suite des chutes de neige et de la fonte de la neige. Et certains des contenus sont remontés à la surface. Enfin bon, bref. Rocky Flats... Il y a eu un raid du FBI à cause de problèmes sanitaires et environnementaux. Donc aujourd'hui, le site est fermé, mais il est transformé en refuge pour la faune sauvage. C'est ce que moi, j'appelle du réensauvagement nucléaire. C'est un autre sujet de recherche sur lequel j'ai travaillé qui est fascinant. Bref. Donc le gouvernement fédéral s'était engagé à ouvrir un site de stockage géologique, comme on a à Bure, qui est en train de voir le jour, pour pouvoir évacuer une partie de ces déchets. Et devinez où est ce site ? Au Nouveau-Mexique. Donc, c'est le Waste Isolation Pilot Plant. Ici, c'est le triangle rose, ici, que vous voyez sur la carte. Sauf que, bon, problème politique, il y a eu beaucoup de retard. Et en octobre 88, ras-le-bol, l'Idaho dit non. On n'importera plus de déchets radioactifs tant qu'il n'y aura pas une solution. Andrews disait « Idaho will not become a waste dump for the rest of the nation ». Et c'est là que a été créé un système de surveillance. Voilà. Là, vous avez la politique locale, la police locale qui s'était opposée. Le site de l'Idaho a créé son propre programme d'études indépendantes des impacts du site. Deux accords ont été signés avec des décisions de justice. Et en 99, une fois que WIP, Waste Isolation Pilot Plant, était enfin ouvert, les premiers convois ont pu quitter l'Idaho vers le Nouveau-Mexique. Et il n'y a toujours pas de solution pour le combustible irradié, c'est-à-dire les déchets radioactifs à haute activité, donc c'est les plus dangereux. Il y a un site dans le Nevada, Yucca Mountain, en 2009, à cause de l'opposition du Nevada et d'autres États de l'Ouest, le budget a été abandonné. Donc pour l'instant, c'est l'impasse. On ne sait pas aux États-Unis où va finir le combustible des réacteurs nucléaires. Il se trouve aussi que ce site d'enfouissement qui a été proposé est sur la terre ancestrale des Shoshones. Les Shoshones qui sont aussi les voisins en Idaho. Donc ça me fait une petite transition un peu artificielle, je vous l'accorde. Vers mon dernier point, enfin mon troisième contre-pouvoir, les Shoshone Bannock. Alors, même si le site l'AEC cherchait un désert, hein, une région peu habitée, c'était pas vide. C'est une région qui n'était pas vide. L'histoire de la présence humaine remonte à plus de 12 000 ans. Elle faisait partie du vaste territoire des locuteurs des langues numiques, Shoshone, Bannock, qui ont été, en 1868, ils ont été parqués dans la réserve indienne de Fort Hall, qui est à 65 km du site nucléaire. Donc souvent, les visiteurs pensent qu'ils ont toujours été là, mais non, à la base, leur territoire s'étendait sur des kilomètres, territoire de chasse, de pêche, de cueillette et de commerce avec d'autres tribus. Voilà, qui allaient même, là encore sur la carte, rend pas justice, puisqu'ils allaient même jusqu'au Canada, des fois jusqu'au Mexique. Ils voyageaient énormément. En tout cas, donc ANL, qui est ici en espèce de beige, vous avez en rose Fort Hall, Indian Reservation, vous voyez la proximité. Et l'ANL se retrouve sur le corridor vers Salmon, donc c'est une ville qui s'appelle Saumon, c'est sur la rivière Saumon, où c'est un territoire de pêche. C'est un territoire de pêche pour les Amérindiens. Et d'ailleurs, la plupart des Amérindiens découvrent pour la première fois l'INL en route quand ils montent vers... ils traversent quand ils montent vers leur terrain, leur terre de pêche. Alors, dans un premier temps, du moment que les deux mondes pouvaient coexister de façon un peu... sans perturber les activités de l'un l'autre, les relations étaient à peu près calmes. Et d'ailleurs, si la présence amérindienne était mentionnée, c'était souvent sur le ton de l'anecdote, romancée. Ici, vous avez un article qui parle de mocassins indiens qui étaient fabriqués par les tribus Shoban, on les appelle Shoban pour Shoshone Bannock, pour les travailleurs de la station. L'article relève avec les noms colorés sur certains employés de la station. Ou alors, quand on notait la présence, c'était plutôt la présence passée des Shoshone Bannock au travers des fouilles archéologiques. D'ailleurs, le livre de Susan Stacy commence avec une découverte dans la grotte de l'aviateur de présence Shoshone Bannock. Je passe rapidement. Il a fallu des années de tension avant d'arriver à une vraie visibilité pour ces tribus. Donc, comme pour les militants et pour l'État de la Laos, c'est la question des déchets radioactifs qui a coincé, mais qui a aussi donné un pouvoir d'action aux tribus, parce que les déchets qui étaient acheminés par train devaient forcément passer sur la réserve de Fort Hawke, comme vous voyez sur cette carte. Il fallait traverser. Et pour, donc inspiré par le blocage de l'État, le conseil de la réserve a décidé eux-mêmes de bannir les déchets radioactifs sur la réserve. Ils ont été ignorés, donc la police tribale a simplement mis une voiture sur les rails pour empêcher les convois de passer, pour forcer le gouvernement fédéral à négocier directement avec les Amérindiens, avec les tribus Chobanes, plutôt qu'avec uniquement le gouverneur de l'Idaho. D'accord. Donc là, vous avez des citations. « The state of Idaho and Governor Badd do not represent nor speak for the Shoshone-Bannock tribes. » Alors, c'est une mobilisation qui a permis aux Chobanes d'obtenir un dialogue direct avec les autorités fédérales. Il y a une délégation qui est venue écouter les demandes de la communauté, qui a reconnu qu'ils avaient mal agi, qu'ils auraient dû les considérer comme des partenaires plus tôt. On voit bien dans ces échanges vraiment un clash des cultures. Les Chobanes voulaient faire comprendre leur perspective aux ces visiteurs, l'importance de la terre pour eux, parce que the Shoshone Bannock peoples cannot move elsewhere if even more of our land and resources are destroyed, our people will be harmed forever. Donc une nouvelle ère de collaboration entre Fort Hall et le site s'est formalisée avec une série d'accords de principe et avec la nouvelle mission sur l'environnement de l'INEEL. Un comité d'analyse des risques pour les Chobanes a été monté pour que les tribus puissent résumer ce qui était le plus important à leurs yeux. Le résultat s'appelle The Native American Scenario, dont vous avez une citation ici, qui décrit bien The Holistic Worldview described in the tribal analysis. Concerns about land, air, water, plant, animals and humans are paramount and are all interconnected. Donc une vision vraiment très holistique de l'environnement pour les tribus. Alors aujourd'hui, le dialogue est là, mais les Chobanes ont encore l'impression qu'on leur parle plutôt qu'on ne les écoute. Ouais, ça c'est une Amérindienne avec qui je discutais qui me disait ça. Et face aux défis environnementaux, les Chobanes sont en fait dans une situation, c'est mon dernier point, que j'ai qualifié de Catch-22. Si vous connaissez le roman satirique de Joseph Heller, Catch-22, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en anglais américain pour parler de l'absurdité d'une situation, une situation paradoxale, inextricable, le serpent qui se mord la queue. Alors la communauté de Fotter se retrouve comme bien d'autres dans une situation de Catch-22 face à ces inquiétudes liées au changement climatique et à la transition énergétique. Les Chobanes avec qui j'ai discuté sont très inquiets. Alors déjà la saison des feux et des sécheresses qui s'allongent. Il y a d'ailleurs eu plusieurs épisodes de feux sur le site nucléaire de Diana. Je pense que j'ai encore besoin de 5 minutes, est-ce que ça va ? Le niveau d'eau qui baisse dans les rivières et dans les réservoirs, les effets sur la santé et la migration des espèces locales, surtout les saumons, dont je le disais, qui sont très importants, surtout pour les Nemhai, qui ont un héritage en langue Shoshone. Leur nom, c'est Aigadeka, qui veut dire mangeur de saumon. Ça fait vraiment partie de leur culture. Alors, quelle solution pour eux ? Les éoliennes n'ont vraiment pas bonne réputation chez les Chobanes à cause des dangers qu'ils représentent pour les rapaces et pour les chauves-souris. Le solaire rencontre clairement beaucoup plus d'adhésion. Et le principal problème, c'est l'héritage minier et la possibilité de l'ouverture ou de la réouverture de mines. Donc, quand on pose la question des impacts sanitaires du nucléaire aux Chobanes, en fait, certains détournent spontanément la conversation pour dire que non, mais INL, c'est le cadet de nos soucis. C'est finalement avec eux que ça se passe le mieux. Le pire, c'est les mines et surtout l'usine de phosphate qu'il y a à Blackfoot, juste à côté de chez eux. Il y a même une usine qui a été exploitée jusqu'en 1993 sur la réserve des Chobans, the Gay Mine. Donc ils ont un accord avec l'EPA pour enquêter sur la dispersion de sélénium, cadmium, vanadium et nickel dans l'environnement, ce qui sont des contaminants. Et avec le boom des véhicules électriques, l'intérêt pour les gisements de cobalt, dont vous avez sans doute entendu parler, en Idaho va grandissant. Donc il y a une ceinture de cobalt dans la forêt nationale de Chalice, qui est juste à côté de Salmon, encore une fois, sur les terres ancestrales de pêche et de chasse des Shoshone-Bannock. Et il a fallu des décennies pour nettoyer la mine de Blackbird, par exemple, une mine d'or et de cuivre qui était ouverte en 1893, exploitée jusqu'en 82 et qui a complètement pollué la rivière. Depuis 2023, donc depuis 2 ans, une mine est exploitée par la compagnie australienne Gervois, une mine de cobalt pour les batteries. Donc au final, l'INL fait un peu office de bon élève en termes de relations avec les tribus indiennes aujourd'hui, amérindiennes, pardon. Alors pour autant, malgré les inquiétudes liées au changement climatique, les Chobans ne croient pas que la solution se trouve du côté de l'atome vert, parce que déjà ça ne résout pas le problème de l'extraction minière, que ce soit l'uranium ou le cobalt, le lithium et toutes les terres rares. Mais surtout à cause de l'impasse sur la question des déchets radioactifs qui risquent de se retrouver sur les terres des Chobans au Nevada. La proximité entre les déchets radioactifs et les populations autochtones, c'est un phénomène mondial. Il y a des dynamiques coloniales, d'injustice environnementale. Là, beaucoup de collègues travaillent sur cette question-là. Et certains collègues travaillent aussi sur les liens entre les enjeux du climat et les enjeux du nucléaire, notamment dans le Pacifique, là où il y a le dôme de Runit, qui est un dôme en ciment, en béton, et à l'intérieur sont enterrés les déchets radioactifs liés aux essais dans le Pacifique. Et avec la montée des eaux, le dôme est fissuré. Avec la montée des eaux, vous voyez le problème. Donc, ma collègue Anaïs Maurer, par exemple, travaille sur ces questions-là avec une approche littéraire. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Deux dernières citations, cette fois-ci, je vais prendre le temps de les lire, parce que celle-ci, elle montre vraiment la contemporanéité du sujet et l'aspect incroyablement cyclique du discours sur le nucléaire. Alors d'abord, une prédiction. Cette prédiction, « Nuclear plants, smaller ones will become an alternative to coal power plants to help cope with the greenhouse effect caused by increased carbon dioxide in the atmosphere. The public cares about the melting of the polar ice cap. » Donc là, on pourrait croire que c'est Bill Gates qui parle de son projet dans le Wyoming, projet de TerraPower. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il a un projet de SMA dans le Wyoming. Ou alors, ça pourrait être Emmanuel Macron aussi. Mais c'est un retraité, en 1988, un retraité de l'INL. Et c'est une décennie, après tout, dans les années 80, c'était la décennie où nous avons presque arrêté le changement climatique, selon l'essayiste Nathaniel Rich. Donc on voit bien ici que l'histoire politique de l'énergie nucléaire, c'est particulièrement cyclique. C'est vraiment une série de batailles discursives sur la question de savoir si l'atome va nous condamner ou va nous sauver, va sauver l'humanité. Alors, en opposant risque nucléaire et menace d'un effondrement écologique et climatique mondial, beaucoup ont récemment trouvé un moyen de vanter les avantages de cette technosolution. Est-ce que ça perpétue un cycle de fantasmes et de désillusions? Ça, c'est aux militants d'en décider. On l'a vu, par contre, malgré les avantages, le nucléaire ne permettra pas de contrer les situations de Catch-22. Voilà. Ça ne solutionne pas ce problème. L'énergie 100% propre n'existe pas, selon Vince Spicer, qui est spécialiste des métaux, qui a publié récemment Power Metal. Alors que faire? Peut-être que là aussi, la réponse n'est pas si nouvelle que ça. Et la deuxième et dernière citation, c'est une recommandation de la part de la Fédération des États de l'Ouest en 1975. Bon, c'était pic pétrolier, crise énergétique. Une réduction de la consommation d'énergie pour tous les États-Unis et la nécessité d'une politique nationale d'économie d'énergie, ou en d'autres termes, ce qu'on appelle en France la sobriété. En anglais, le terme, c'est « sufficiency ». Alors, tandis que le discours cornucopien pro-nucléaire des années 50 n'a apparemment pas pris une ride aux États-Unis, force est de constater que celui sur la conservation, qui a bien existé, ou sur la « sufficiency », lui a été bien enterré dans les archives et peine à être exhumé, surtout dans le contexte politique actuel états-unien. Merci beaucoup.
Merci pour cette présentation des plus stimulantes et passionnantes. Très riche, en tout cas. Nous allons passer donc à présent on va dire à la partie interactive de ce séminaire et donc laisser la parole au public venu en nombre aujourd'hui pour d'éventuelles questions ou commentaires. Allez-y.
Moi, j'aurais une question concernant la présidence actuelle avec Donald Trump et en quoi est-ce que son approche imprévisible et excessivement extrême concernant la politique étrangère et la défense. Comment est-ce que tout ça a accru les risques liés au nucléaire ? Et qu'est-ce qu'en pense l'État de l'Idaho concernant le nucléaire et le risque, on va dire entre guillemets, de la présidence de Donald Trump ?
Sur la deuxième partie de la question, je ne pourrais pas trop répondre. Il faut voir peut-être sur des données chiffrées, des sondages ou des choses comme ça. En tout cas, la présence d'un président qui risque de faire augmenter les budgets de la défense, c'est toujours apprécié dans les États là où il y a des sites nucléaires, parce que ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va arriver pour des nouveaux projets, etc. Dans l'Idaho, c'est particulier parce que, comme je disais dans les années 80, c'est encore le cas aujourd'hui, les Idahoans sont fiers de leur site, mais qui est dédié à la paix et pas aux armes. Donc il y aura peut-être plus de réactions du côté du Texas, là où par contre c'est vraiment centré sur les armes nucléaires. Le côté imprévisible de Donald Trump, quand il était au pouvoir pendant son premier mandat, il y a eu toute la période, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes peut-être un peu jeune, mais toute la période avec la Corée du Nord, Rocket Man Incident, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et il y avait eu toute une analyse, est-ce qu'on rentre dans une autre guerre froide ? Est-ce que c'est la théorie du fou de Nixon ? On se posait la question. Donc, quand Nixon était au pouvoir, il avait cette technique de faire croire à ses opposants qu'il était instable. Qu'il était instable psychologiquement et donc qu'il pouvait appuyer sur le bouton à n'importe quel moment. Ça faisait peur et ça forçait à négocier. Et il y a des analystes qui se sont posé la question si Trump c'était le cas. C'est difficile à dire. Personnellement, je pense que non. Je pense qu'il y a... Je pense qu'il ne le fait pas exprès. Là, dans le cas aujourd'hui, les États-Unis sont plutôt en train de s'orienter vers une politique isolationniste, qui est la base, les États-Unis ont été créés. Voilà, donc Trump, c'est un isolationniste. Il méprise, ou même c'est un unilatéraliste presque. Il méprise totalement les instances multilatérales. Est-ce que ça augmente le risque nucléaire ? Oui, dans le sens là où tous les traités, on n'a presque plus aucun traité de limitation ou de régulation des armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis. Tout ce qui a été signé entre les années 90 et aujourd'hui, ils sont tous arrivés à échéance. C'est la Russie de Poutine qui en est sortie en premier, et puis les États-Unis ont suivi. Donc le risque aujourd'hui, oui, le risque nucléaire est très élevé. Très, très élevé. Et Trump étant instable, mais pour le coup, réellement instable, c'est pas rassurant. Je voudrais pas nourrir votre anxiété de trop, mais voilà. On va ce qu'on peut en dire à peu près. N'ayez pas peur de poser des questions auxquelles j'ai peut-être déjà répondu. Je vous ai donné beaucoup d'informations. Donc si vous avez peur de me poser une question parce que vous dites « Ah, elle l'a peut-être déjà dit », posez-la quand même, c'est pas un problème. Vous ne pouvez pas tout retenir de ce que je vous ai dit en une heure.
Monsieur ? Oui, c'était pour ça, peut-être pour le futur de l'énergie nucléaire aux États-Unis. Je sais que ce n'est pas vraiment la politique principale qui est en ce moment pour le parti au pouvoir, mais peut-être dans le futur, parce que je sais que, par exemple, en Asie, ça devient plus en plus quelque chose qui augmente un peu plus. Mais est-ce qu'en Idaho, l'énergie nucléaire, ça reste encore quelque chose qui sera peut-être possible un jour ou...
Pour alimenter les Idahoans en énergie directement. Oui. Alors, deux choses localement, c'est un peu compliqué, mais paradoxalement, l'Idaho n'utilise pas d'énergie nucléaire. Donc, il y a eu ARCO dans les années 50, c'était un essai, mais la population de l'Idaho est trop faible, trop petite, pour qu'il y ait suffisamment de demande, parce qu'une centrale nucléaire, ça produit énormément d'énergie. D'ailleurs, la France produit trop d'énergie et en exporte. Et c'est pour ça que finalement en Idaho, il y a eu plusieurs essais, il y a eu plusieurs tentatives de s'allier avec d'autres États voisins pour pouvoir mettre en place construire une centrale et avoir de l'énergie nucléaire. La grande majorité, c'est de l'hydraulique en fait, de l'hydraulique, de la géothermie et après des fossiles. Donc dans l'avenir, à moins qu'il y ait vraiment un gros boom démographique, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de... En plus, il y avait un projet par une entreprise privée qui a été abandonnée en novembre 2023. Donc il y a eu plusieurs projets qui n'ont pas fonctionné à cause de problèmes de fonds, d'argent. C'est des puits... c'est un peu comme l'EPR de Flamanville qui a triplé, quadruplé en coûts et qui a pris des décennies de retard. Le nucléaire, c'est ça, hein. C'est la timeline, en fait, c'est le temps que ça prend et le coût, qui déplaît beaucoup à de nombreux militants, d'ailleurs. D'un point de vue plus global, alors l'administration Biden était très pro-nucléaire, très favorable au développement de réacteurs de génération 4, comme on retrouve en Asie, en Chine, en Russie, qui sont vraiment en avance. Le Parti démocrate, chez certains pro-nucléaires, disent que les États-Unis vont complètement perdre la course vers la transition, dans la transition écologique. On est en train de repartir complètement à l'inverse. Et c'est vrai que le mandat Trump, là, un drill, baby drill, on est parti pour favoriser les fossiles, ce qui est pas... au-delà du problème moral que ça pose, du climato-scepticisme, les compagnies pétrolières elles-mêmes s'attendent, les prix ne bougent pas, parce que de toute manière, la demande est en train de... pas de baisser, mais elle risque d'atteindre le pic de toute manière. Je pense que sous ce président, il y a peu de chances quand même qu'il y ait de nouveau un gros boom du nucléaire aux États-Unis, ça m'étonnerait. Là, on a un président 19e siècle. Hein. Mais vraiment, son discours d'investiture, c'est incroyable. La destinée manifeste, President McKinley, que des références au 19e siècle et un discours impérialiste. Vous reprenez les discours de Albert Beveridge, des impérialistes fin du 19e, début du 20e, c'est exactement la même chose. Vraiment, je vous conseille, c'est assez fascinant. Ça fait peur aussi, mais c'est assez fascinant.
Dans ton approche méthodologique, as-tu été influencé par le courant historiographique dit de l'histoire d'en bas, dont l'une des figures les plus connues aux États-Unis fut Feu, l'historien Howard Zinn?
Oui. Ouais. Est-ce que vous connaissez Howard Zinn? Pas du tout? Non. Je vous le conseille. S'il y a un bouquin que je vous conseille de lire... Histoire des États-Unis. Il a écrit le titre en français, c'est une histoire populaire des États-Unis. En anglais, c'est People's History of the United States. Et c'est le livre qui m'a fondateur pour moi, pour beaucoup de spécialistes de l'histoire sociale. Moi, je suis pas historienne, je suis civilisationniste, mais quand même, on le considère souvent comme historienne aux États-Unis. Et donc, il a écrit une histoire par le bas, comme tu disais. Il s'est intéressé non pas aux dirigeants, aux conquérants, aux militaires, aux hommes politiques, mais il s'est intéressé aux ouvriers, aux femmes, aux minorités. Voilà, il refait toute l'histoire des États-Unis avec chaque fois un chapitre du point de vue des... Voilà, plutôt que de parler de Christophe Colomb et de tous les conquistadors, il prend le point de vue des Amérindiens. C'est vraiment une lecture très intéressante, très militante aussi. Hein, aux États-Unis, il y a toujours ce débat... il y a beaucoup plus le débat en France qu'aux États-Unis, là où souvent les chercheurs, chercheuses... surtout en sciences humaines, sont aussi impliqués dans un militantisme plus ou moins poussé. C'était le cas de Howard Zinn. Donc oui, il m'a beaucoup influencé, ça c'est clair. C'est vrai que c'est ce qui m'intéresse, c'est de parler avec les gens, de trouver des témoignages dans les archives écrites, voilà, l'histoire orale. Après, sur les sujets plus contemporains. Là, c'est vrai que y a un côté beaucoup plus politique dans le travail sur l'atome vert. Mm-hmm. Ça, on va voir où ça me mène. Mais Howard Zinn sera toujours. Et puis, parmi mes collègues qui travaillent sur l'Ouest nucléaire, il y a vraiment cette influence-là. Il y a plusieurs bouquins qui s'appellent A People's History of the Nuclear West. Voilà. Donc, on retrouve cette patte-là. Ouais. Tout à fait. Donc, voilà. Lisez Howard Zinn.
Ça, c'est comme un roman, hein. Il est assez important. Enfin, il contient 750 pages, un truc comme ça.
Oui, ça fait peur, c'est un pavé.
C'est un pavé, mais ça,
après,
c'est
pouvez...
très bien comme un roman. Hein.
Vous pouvez lire la période qui vous intéresse le plus.
Oui, c'est ça.
Mais ça se lit, ça se lit très bien.
Très bien,
oui. Super bouquin. Ouais.
D'autres questions ou remarques ?
Moi, j'en ai une, j'ai pas tout compris, en fait. tu as parlé de fédéralisme concurrentiel. Mm-hmm. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, en fait. Ça détruit pour moi.
Ouais. Alors, le fédéralisme concurrentiel, c'est dès la création des institutions des États-Unis. C'est l'un des pères fondateurs qui s'appelait James Madison, mm-hmm. Qui a écrit un essai dans les Federalist Papers. Donc, où il parlait du système fédéral à grande échelle et de comment contrer la concurrence qu'il pouvait y avoir entre les États et entre les différents niveaux de gouvernance. Mmh. Et on le voit beaucoup encore aujourd'hui que sur un pays aussi grand que les États-Unis, il y a vraiment, surtout dans l'Ouest et dans les États de l'intérieur, hein, là où aussi on voit le vote populiste s'exprimer le plus, qu'il y a beaucoup de tensions et que c'est vraiment un rapport de force constant entre les élus locaux, le gouvernement de l'État et les représentants de Washington. Donc il y a cette concurrence entre le niveau fédéral, le niveau étatique, et ensuite il y a aussi la concurrence entre les différents États. Et avec le nucléaire, on le voit bien parce que, par exemple, le Nevada qui a été choisi pour enfouir les déchets radioactifs les plus dangereux, pour des raisons géologiques et de démographie faible, a refusé, parce qu'en plus, ils n'ont même pas de réacteur nucléaire. Ils n'ont pas de déchets radioactifs, ils n'en produisent pas. Donc ce sera tous les déchets des centrales qui sont sur les côtes, plus peuplées. Donc les représentants, les élus de ces États-là sont à fond pour que ce projet ouvre, pour pouvoir se débarrasser de leurs déchets. Et le Nevada dit non, avec l'aide des États voisins. Donc c'est surtout au Sénat qu'il y a cette concurrence entre les États, parce que c'est là où il y a une représentation égale, il y a deux sénateurs par État. Et c'est là où ils peuvent avoir plus de poids. Donc voilà, sur ce type de questions, là où il peut y avoir des différences notoires, souvent liées à la culture et à l'histoire de ces différentes régions, il peut y avoir des conflits assez violents entre les États, et c'est ce qu'on appelle le fédéralisme concurrentiel. Ouais. Voilà. Je suis passée un peu vite, je ne sais pas s'il y a des termes qui vous ont que vous voulez que je définisse? Est-ce que vous avez compris ce que c'était le cornucopianisme, par exemple, l'approche cornucopienne? Pas trop. Je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qu'il fallait définir, mais je n'avais pas le temps. La corne d'abondance, vous connaissez la corne d'abondance? D'accord, cette idée, alors c'est de la mythologie, c'est une corne de... Je ne me souviens plus du mythe maintenant. C'est une corne de chèvre, je crois, qui est censée produire... Enfin bon, c'est dans la mythologie grecque, et c'est une corne dont il sort plein de richesses, etc. Parmi les cornucopiens, c'est l'idée que la technologie, le génie humain... permettra toujours d'entretenir cette corne d'abondance, que la technologie et le génie scientifique et technique humain permettra toujours de trouver des solutions pour continuer à fonctionner et à croître. C'est voilà, la croissance infinie, donc c'est lié... C'est lié aussi au principe de la croissance verte, de ces idées-là. Oui, c'est lié tout ça au technosolutionnisme, cornucopianisme, et l'idée que c'est sans fin, vraiment, alors que bon, ça fait depuis les années 70 qu'on parle des limites planétaires. Oui. Voilà. Croissance infinie dans un monde fini. Donc, là-dessus, si vous voulez lire, il y a une BD, parce que la BD, ça se lit bien aussi. Vous avez bien sûr la BD de Jancovici, on en parlait tout à l'heure, Un monde sans fin. Mais il y a aussi là, une BD qui s'appelle Ressources. C'est Philippe Biwix, B-I-H-O-U-I-X, Philippe Biwix, spécialiste des métaux aussi, qui a travaillé là-dessus. Et qui a sorti cette BD ressource très intéressante. J'aime bien, je trouve que c'est génial les BD comme ça qui sont sorties maintenant. Il y a Prometheum aussi qui se passe dans les années 2040 ou 2050. On a réussi à faire la transition écologique, c'est-à-dire transition vers le renouvelable, etc. Mais par contre, la Terre est tout autant polluée qu'avant à cause de la nécessité de métaux rares.
Non, c'est un outil de vulgarisation.
Et justement, tu as parlé de littérature tout à l'heure. Tu as parlé d'une collègue qui regardait les choses selon de la littérature. Tu peux développer. Je sais bien que ce n'est pas ton sujet, mais tu peux développer un petit peu.
Oui. Alors, très légèrement, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que je l'ai invitée à un séminaire en ligne au mois d'avril, donc si ça t'intéresse de le suivre, je t'enverrai l'information. Elle va faire une présentation d'une quarantaine de minutes sur son livre que j'ai mis, je sais plus où, il est là. Donc Anaïs, oui, je l'ai rencontrée il y a quelques temps, elle avait fait une super présentation, elle travaille sur le Pacifique, pour le coup avec une approche très militante, hein, et elle parle des auteurs et autrices, principalement autrices, qui écrivent de la littérature là où elles mettent ensemble le péril climatique, la fin de leurs îles qui disparaissent, leur lieu de vie qui disparaît, et la lutte contre les maladies radio-induites qui sont liées aux essais dans le Pacifique, aux essais français aussi, hein, bien sûr, états-uniens, français, britanniques... Et je ne pourrais pas te citer un exemple, mais dans son bouquin, elle parle de plein d'œuvres contemporaines écrites par des Tahitiens et Tahitiennes. Voilà. Mais il y a tout un...
Oui.
Alors, Polynésie française et francophone et anglophone aussi, parce qu'elle s'intéresse aussi aux îles Marshall. Elle parle tahitien, il me semble. Donc, voilà, elle a travaillé dans différents contextes linguistiques. Mais dans les recherches sur le nucléaire, il y a tout un pan de la recherche qui est en lien avec les études culturelles et avec la littérature. Il y a toute une littérature... Y a aussi du cinéma, bien sûr, le nucléaire, le lien avec les super-héros. Il y a une culture populaire autour de l'objet nucléaire, principalement militaire, un peu moins civil, un peu moins énergie.
Moi, je pensais que c'est proche de ce qu'on appelle l'éco-critique, en fait.
Oui. Oui, bah, justement, ouais. Éco-critique des, ouais. Développé par Bertrand Westphal, qui était le directeur de mon labo.
Ah d'accord, voilà, tout se tient.
Ouais. Le monde a un sens.
J'avais une question par curiosité. Dans votre dernière partie, vous avez parlé des Amérindiennes. Et je voulais savoir si, pendant votre recherche, vous avez vu des communautés afro-américaines qui ont été impactées par le développement nucléaire.
Alors, oui, j'y parlais. Impactées. Alors, bon, la communauté afro-américaine en Idaho est relativement petite. Mais c'est une histoire très intéressante parce que les Africains américains, maintenant je crois que en français on dit Africains américains, les Africains américains qui sont arrivés dans l'Idaho étaient souvent assez aisés. C'était une population qui avait eu les moyens de bouger, population libre. Et je suis allée au musée à Boise. Il y a un musée de l'histoire africaine-américaine de l'Idaho. C'était très intéressant. Donc j'ai discuté avec un monsieur là-bas qui m'expliquait tout ça. Et j'ai aussi pu interviewer un employé de l'INL, du laboratoire, qui était africain-américain et amérindien du côté de sa mère, qui lui a écrit un livre lanceur d'alerte, mais sur des questions de discrimination, pas sur des questions environnementales, mais sur des questions de discrimination. Il avait grandi toute sa vie à Idaho Falls, qui est la ville la plus grande à proximité du site. Ça, j'en ai pas parlé, mais cette région est très mormone. La religion, 50% de la population à Idaho Falls est mormone. Donc, Latter-day Saints. Donc, c'est avec des idées très, très traditionnalistes, conservatrices, et une population blanche, principalement. Et d'ailleurs, le livre des Mormons est très est raciste, hein, à plein d'égards. Et je m'en veux parce que son nom m'échappe. Non, le nom de l'auteur de ce petit bouquin, c'est un bouquin qu'il a autopublié, et ça me revient pas tout de suite. Mais en tout cas, il m'a parlé de son enfance, de grandir dans ce milieu-là, et des d'Africains américains qui étaient employés par le site et qui étaient victimes de... victime de discrimination, voire de racisme. Donc il y a ces problématiques-là aussi. Il ne m'a pas trop parlé d'environnement. Les questions environnementales, c'était assez secondaire. Patterson. Dennis Patterson. Il fallait quand même que je me souvienne de son nom.
D'autres questions, remarques? À propos de Jean Covici, justement.
Alors, il a écrit dans sa BD Un monde sans fin, que j'ai lu dernièrement, à propos donc des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. La panique et la peur de la radioactivité ont fait plus de dégâts que la radioactivité elle-même. Dans le même ordre d'idées, dirais-tu que l'émotion a eu tendance à prendre le dessus sur la raison aux États-Unis pour ce qui est de... on va dire, de l'industrie nucléaire.
Là, il n'y a pas de bonne réponse, parce que je pense que c'est...
L'annonçant de Jean-Claude Vissi, justement,
à l'aune de ce qui s'est passé aux États-Unis?
Sur les chiffres, le problème, c'est que les chiffres sur le nucléaire, on peut vraiment leur faire dire ce qu'on veut. Par exemple, les chiffres sur Tchernobyl, personne n'arrive à s'entendre sur le nombre de victimes. Parce qu'il y a les victimes directes, et après, il y a les victimes indirectes. De prouver qu'un cancer est radio-induit, c'est extrêmement compliqué. Et il y a des, des militants très, très, très investis dans cette cause-là, au Nouveau-Mexique notamment, mais souvent qui vivent dans des communautés là où ils n'ont pas accès à beaucoup de produits frais. Donc ils mangent, ils ont un régime alimentaire qui est pas top. Ils sont exposés à du radon. Il y a plein de facteurs c'est très compliqué. C'est un parcours du combattant et je ne minimise absolument pas ce combat-là. Après. Moi, j'essaie de pas. J'ai pas une démarche militante, donc je me positionne pas trop là-dessus. Je pense pas que ce soit une bonne idée de.
Tu penses que Jean Covici, lui, a une démarche militante? Parce que c'est bon, à la base, c'est un scientifique, hein. C'est pas un militant.
Oui, mais bon, il est quand même très investi pour pousser. Pour conseiller dans un sens que pour le coup ça va dans le sens de la sobriété, donc là-dessus j'abonderai dans ce sens-là. Il est pro-nucléaire effectivement. Si tu me demandes si on doit sortir du nucléaire à l'heure actuelle, je pense que la France, il faudrait surtout pas fermer les centrales parce que sinon on va se mettre sur du charbon ou sur des fossiles. L'Allemagne est plutôt bien avancée, mais bon, on est encore loin de pouvoir faire du 100% renouvelable. Mais quelle que soit l'énergie, il faut que ce soit un mix, quoi. On est un tel degré d'urgence que toutes les solutions sont bonnes à prendre. Mais pour avoir étudié cette question depuis quand même pas mal de temps maintenant, moi j'en suis arrivée à la conclusion qu'on n'arrivera à rien sans réduction de la consommation. C'est évident. C'est évident. Et si elle n'est pas organisée et voulue, planifiée, elle sera forcée. Ce sera peut-être dans 50 ans, mais c'est déjà le cas. Il y a énormément de gens qui réduisent, et surtout de comprendre que dans un pays comme la France, même si qu'on pèse lourd d'un point de vue des émissions historiques, et surtout qu'on est un pays extrêmement riche par rapport à une grande partie de la planète qui consomme très peu par rapport à nous, ou alors qui consomme pour produire les produits que nous on va utiliser ici. Bref, mais pour revenir à ta question, cette partie-là a fait couler beaucoup d'encre. Je pense que c'était pas forcément très intelligent de se positionner de façon aussi franche. Mais bon, Jean Covici est quelqu'un de très carré, quoi, sur cette question du nombre de morts, parce que c'est un débat énorme. L'émotion a joué un rôle fondamental dans le mouvement anti-nucléaire, a été très efficace. Mais sur les sources qu'on voit dans les discours, c'est que les émotions jouent un rôle de l'autre côté aussi. Parce que chez les pro-nucléaires, il y a aussi des émotions très fortes qui sont exprimées, souvent très agressives, et un verrouillage total du dialogue. C'est souvent ces deux côtés qui refusent totalement d'entendre ou de bouger un iota sur leur position. Donc quand toi, tu te places au milieu, c'est la première chose que je dis en interview. Moi, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis comme un pendule qui, des fois, je me dis, mais on est fou de prendre ces risques. Et d'un autre côté, je me dis, oui, mais en même temps, on peut pas faire ça. Et il y a d'autres problèmes. Là, on voit avec les polluants éternels. Il y a d'autres problèmes environnementaux qui sont. L'industrie nucléaire est extrêmement régulée. Et ça, c'est un acquis du mouvement anti-nucléaire qui a fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de régulations, de règles de sécurité sur le nucléaire. Donc c'est vrai que dès qu'il y a. Parce que ça fait peur, c'est de l'invisible, c'est ce qu'on appelle la radiophobie. Voilà, la peur de la contamination radioactive. Je ne sais plus trop si j'ai répondu à ta question ou vers où je suis partie.
Oui, ça me paraît pertinent.
Je voulais dire peut-être juste un dernier truc sur l'Idaho. Vous en avez sans doute jamais entendu parler, sauf peut-être pour les patates. C'est très connu pour ces patates. Quand je suis arrivée à l'aéroport et que j'ai dit que je voulais faire de la recherche, on m'a dit sur quoi ? Sur les patates ? Non, sur le nucléaire. Mais c'est un État aussi qui a une histoire complexe. Et vous m'avez posé la question sur les populations afro-américaines. Quand vous allez dans le nord du pays, de l'État, vers le Canada, c'est un État très conservateur, très pro-Trump. C'est un État dangereux pour les minorités dans certains coins, dans les coins les plus ruraux. Il y a ce qu'on appelle des preppers. Vous avez entendu parler des preppers ? Donc des gens qui se préparent à l'apocalypse. Il y a des bunkers. Donc c'est ça aussi le lien entre le changement climatique et la guerre froide. Il y a des bunkers qui sont aujourd'hui utilisés pour préparer avec des armes, avec de la nourriture, des gens qui se préparent vraiment à la guerre civile. Le KKK, le Ku Klux Klan, était présent pendant très longtemps dans le nord de l'Idaho, les nations aryennes. Il y a eu beaucoup de migrations de l'ancien sud esclavagiste après la guerre de sécession vers l'État de l'Idaho. C'est un État vraiment très conservateur.
Et pourquoi ils ont trouvé, excuse-moi, je te coupe, ils ont trouvé refuge dans cet État-là ?
Parce que c'était très reculé et avec une très petite population, pour être tranquille. C'est pour ça aussi qu'on a aujourd'hui des mouvements de population aux États-Unis, là où par exemple les Californiens les plus conservateurs qui en ont marre d'être dans un État progressiste vont en Idaho, déménagent. Les Idahoans en ont ras-le-bol partout, on m'a dit, mais ras-le-bol de ces Californiens qui viennent s'installer chez nous. Et les plus libéraux, les plus progressistes, notamment des universitaires, quitte l'Idaho, parce que c'est l'un des premiers États à avoir voté contre l'avortement. C'est un État vraiment où certaines personnes... les bouquins sont enlevés des bibliothèques parce que ça fait référence à une approche du genre qui ne convient pas. Ça fait depuis les années 90 qu'il n'y a pas eu de démocrate au pouvoir en Idaho, c'est que des républicains. Donc voilà, c'est vraiment un contexte de recherche qui est quand même assez particulier. Faut faire un peu attention à ce qu'on dit, faut faire attention où on va, parce que les gens ont des armes. Si vous vous présentez, vous vous dites que vous êtes végane, contre le port d'armes, féministe, puis vous rajoutez, ça peut être un petit peu compliqué. Donc je voulais juste préciser ça. Il y a des bouquins très intéressants sur cet aspect-là de l'Idaho, qui, cela dit, d'un point de vue paysage, absolument incroyable. C'est un endroit absolument magnifique. Vraiment un très bel état à ce niveau-là.
Je propose que ce soit le mot de la fin. Si on n'a plus de questions, et on va remercier Lucie Genet et Olivier Coquin.